Déclic, deuxième partie, toujours sur Radio Campus Paris 93.9 FM. Nous venons d'écouter White Rabbit de Jefferson Airplane, un morceau extrêmement approprié puisqu'on y parle justement de réalité parallèle et de prise de drogue notamment. Et dans cette deuxième partie, nous allons nous pencher sur le jeu vidéo Californium, qui est donc coproduit par Arte France, Nova Productions et Darjeeling Productions. Et nous allons en parler avec Thibaut Decordet, qui en est le co-scénariste.
Qu'importe ce que le futur nous réserve, le futur choisit.
Déclic.
Alors, Thibaut Decordet, racontez-nous comment est-ce que l'idée de faire un jeu vidéo quand on fait un hommage à un auteur de littérature, pas de littérature classique parce que c'est de la science-fiction, mais quand même un auteur de littérature du XXe siècle, comment est-ce que cette idée a émergé?
Alors moi j'ai proposé à Arte en 2010 quelque chose, enfin un documentaire à l'antenne pour, sur Caddy, que Arte est intéressé, avait un intérêt, a montré un intérêt de principe. Très vite avec Arte la question se pose de que fait-on sur le web. À l'époque je venais de rencontrer Darjeeling Production, je leur dis voilà, Arte est intéressé par un projet autour de Caddy, qu'est-ce qu'on pourrait penser sur le web. J'en parle à Noam qui revient quelques temps plus tard en me disant bah, j'en ai parlé à droite à gauche. Un jeu vidéo semble la meilleure, enfin semble une très bonne option pour un objet web autour de Kadik. C'est comme ça que ça a démarré.
D'accord. Et donc du coup, Arte, le fait de produire un jeu vidéo, ça s'est enclenché rapidement. Comment est-ce que au niveau du scénario, comment est-ce que vous avez travaillé? Est-ce qu'il y a eu des liens avec les autres plateformes? Et comment est-ce que vous avez décidé quel angle vous avez décidé de prendre et comment est-ce que ça s'est impulsé?
Ça a été on a démarré en 2010 en se disant qu'on serait prêt en 2012.
D'accord.
Pour les 30 ans de la mort de Kadik. C'était ça l'objet.
Ok.
L'objectif
c'était. Il y a eu un petit retard dans le planning.
Un allongement du planning. Plus exactement.
Une réalité un peu plus étendue.
Oui, un peu distendue. Voilà, c'est ça. Et on est rentré dans des bugs multiples. Sur le jeu vidéo, c'était un peu. On a tous appris en même temps parce que Darjeeling et Nova n'avaient jamais produit de jeu vidéo. Et Arte était au début de la... TIE Fighter venait de sortir. Mmh. Donc on ne savait pas très bien quel allait être l'enjeu autour du jeu vidéo commercialement et en termes de même éditorial. C'est-à-dire, est-ce qu'on était sur un objet expérimental? Est-ce qu'on faisait du laboratoire?
Alors juste pour nos auditeurs, TIE Fighter, c'était le premier gros jeu vidéo produit par Arte, qui était dans l'univers de la typographie. Là, ils ont décidé de faire un deuxième gros projet avec Californium.
C'est ça, exactement.
Et donc, ce projet est actuellement en ligne.
Californium. Oui, absolument. Le premier épisode est en ligne.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer aux éditeurs rapidement la base du scénario du jeu vidéo et quelle est l'expérience de jeu?
Oui. Alors, c'est un jeu de la première personne. D'accord. Qui est un jeu d'exploration et d'énigmes, un puzzle game, où vous incarnez un Elvin Green, qui est un écrivain dont la vie est un peu compliquée.
Mm-hmm. Et par analogie avec un autre écrivain
qu'on pourrait
parler imaginer.
Si vous avez le temps.
Tout à fait.
Et ça se passe à Berkeley, donc dans les années 60, et la vie est tellement catastrophique que ça devient quasiment insupportable. Et donc il y a une entité un peu magique qui, un peu à la façon du Dr Faust, intervient et propose une alternative. Et donc vous, en tant que joueur et en tant que personnage qui cherchez à échapper à cette réalité qui est la vôtre, en faisant le pari d'un autre monde qui serait bénéfique, vous allez, petit à petit, en découvrant les anomalies du monde qui vous entoure, en les révélant, faire disparaître cette réalité pour faire apparaître un autre monde. Donc le personnage avance d'un monde à l'autre, avec à chaque fois un changement de contexte drastique, qui fait qu'à la façon de Faust, il gagne certaines choses, mais il perd sur d'autres plans. Et donc, d'un monde emboîté à l'autre, il va chercher à échapper à la réalité qui l'entoure.
D'accord, donc il y a un côté un peu Inception avec des mondes qui s'imbriquent.
Oui.
Et il y a un côté épisodique puisque chaque niveau sort une fois par semaine, je crois.
Alors sur Arte Creative, je crois que c'est toutes les deux semaines, je crois. Sinon, le jeu est en entier disponible sur la plateforme Steam et GOG.
D'accord. Donc on a une œuvre de fiction interactive avec au cœur la figure de l'écrivain.
Oui.
Et c'est quelque chose qui n'est pas propre uniquement à Californium puisque ça a déjà été le cas dans d'autres œuvres de fiction. Donc avant de creuser un peu plus le scénario et justement de parler de qu'est-ce que c'est que de développer une narration dans une œuvre interactive, on va aller voir avec la chronique Le Fil d'Oriane du côté des autres arts, comment est-ce que d'autres œuvres sont arrivées justement à mettre des écrivains au cœur de la fiction.
Retrouvez Déclic en podcast sur radiocampusparis.org. Comme vous l'avez dit, Thibaut, Alexandre, au début de Californium, le joueur incarne donc Elvin Green, un écrivain de science-fiction qui n'écrit pas, qui n'écrit plus, et qui en prime vient de se faire quitter par sa compagne. On le verra dans la suite de l'émission, dans I, Philip, c'est carrément dans la tête de Philip K. Dick himself que l'on se situe, ou du moins dans la tête d'un androïde et de ses supposés souvenirs. Certes, c'est un peu compliqué, mais oui, les films avec des écrivains pour héros présentent souvent une structure narrative complexe, censée refléter les méandres tortueux de la psyché du romancier. Celui-ci est-il forcément raté, forcément fauché, forcément torturé ? Remontons le fil ensemble. Ce ne sont pas les livres et les films ayant un écrivain pour héros qui manquent. Soit les auteurs se créent un avatar, un double fictionnel, soit ils se mettent directement en scène, respectant la maxime « écris sur ce que tu connais le mieux ». D'ailleurs, les biopics de vrais écrivains sont légion au cinéma. Que ce soit adapté de leurs propres écrits comme Sur la route de Kerouac ou résultant d'un melting pot plus ou moins fantaisiste comme dans Shakespeare in Love. Entre les deux, les vies romancées de Jane Austen, de Rimbaud Verlaine, de Virginia Woolf, Françoise Sagan et j'en passe ont été régulièrement portées à l'écran. Mais qu'il soit réel ou fictionnel, la figure de l'écrivain au cinéma semble tout entier contenue dans le syndrome de la page blanche. Dans chaque film avec un écrivain ou presque, l'auteur alterne litres de café ou d'alcool et lancers de feuilles blanches froissées en boule dans une tentative souvent ratée de basketball dans la corbeille à papier. Et dans ce trope, l'écrivain en panne d'inspiration, c'est Stephen King qui semble finalement avoir été le plus prolifique et en plus le plus adapté à l'écran. Son écrivain alter ego étant incarné successivement par James Caan dans Misery, Johnny Depp dans Fenêtre secrète ou encore Jack Nicholson dans Shining.
Wendy, let me explain something to you. Whenever you come in here and interrupt me, you're breaking my concentration. You're distracting me. And it will then take me time to get back to where I was. Understand?
Yeah.
Fine. And we're gonna make a new rule. Whenever I'm in here, you hear me typing. Whether you don't hear me typing, whether the fuck you hear me doing in here, when I'm in here, that means that I am working. That means don't come in.
Le scénariste Charlie Kaufman, quant à lui, amène plus loin encore la réflexion autobiographique sur l'écrivain au travail. D'abord, évidemment, avec son propre personnage de scénariste dans Adaptation, sorte de mise en abîme ultime, mais n'oublions pas non plus ses autres films. Synecdoc, tout entier tourné autour de la figure de style du même nom, mais aussi une autre mise en abîme certaine dans La peau de John Malkovich. Et enfin, dans Eternal Sunshine of the Spotless Mind, même si le héros n'est pas écrivain à proprement parler, la revisitation des souvenirs de son histoire d'amour font du personnage, de fait, un auteur malgré lui. Dans les séries télé, à première vue, les écrivains semblent mieux réussir. Hank Moody de Californication, Rick Castle de la série du même nom ou encore Noah Soloway dans la saison 2 de The Affair connaissent le succès et les affres qui vont avec. Sexe, drogue, fans envahissants et compagnie. Et c'est plutôt du côté d'HBO qu'il faut aller chercher la figure de l'auteur complexe, de l'auteur torturé. Dans Girls, dont la cinquième saison vient de recommencer il y a quelques semaines, Anna, l'héroïne, double fictive de Lena Dunham, qui l'incarne également, n'a de cesse de devenir écrivain.
I think that I may be the voice of my generation. Or at least a voice of a generation.
Toujours sur HBO, dans Bored to Death, série brillante annulée après trois courtes saisons, Jonathan Ames, le créateur de la série, mettait en scène un héros romancier du même nom qui décidait de devenir détective privé en postant une petite annonce sur Craigslist. A noter que dans cette série, le meilleur ami du romancier, Ray, incarné par Zach Galifianakis, était également un auteur de bande dessinée dont le héros, Super Ray, était doté entre autres d'un pénis surdimensionné. On est toujours dans la psyché de l'écrivain. Et dans l'industrie vidéoludique, le personnage de l'écrivain est a priori moins attirant, trop introspectif sans doute, pas assez porté sur l'action. Pourtant, au moins deux gros titres horrifiques l'ont utilisé. Dans le premier, Silent Hill, sorti en 1999, non seulement le héros Harry Mason est bien un écrivain, mais les sources d'inspiration du studio Konami sont à chercher auprès de Poe, Lovecraft et Stephen King. Le jeu Alan Wake, quant à lui, sorti en 2010 sur Xbox, met en scène un écrivain victime lui aussi de la page blanche. Et l'univers du jeu est inspiré librement de l'œuvre de Stephen King, décidément on n'y échappe pas. Enfin, dans un genre plus intime, The Novelist est un jeu indé, auréolé de nombreux prix entre 2013 et 2014, qui demandait aux joueurs d'espionner puis de manipuler un écrivain essayant de terminer un livre, tout en étant un bon père et un bon mari. Certains des détails ne sont d'ailleurs pas sans évoquer le début de Californium, notamment dans le rôle prépondérant de la machine à écrire et des lettres disséminées dans la maison. La boucle est bouclée.
En effet, merci, merci Oriane pour cette chronique. Donc énormément de références, on le voit à la base plutôt dans la littérature et dans le cinéma. Et dans le jeu vidéo encore assez peu. Est-ce que vous êtes parti d'exemples qui étaient plutôt liés, comme on l'a vu, à Stephen King notamment, dans votre réflexion sur Californium ou du jeu vidéo? Comment est-ce que vous avez eu cette idée d'utiliser une figure qui est effectivement pas une figure forcément très utilisée dans le jeu vidéo, qui est celle de l'écrivain?
Bah là, c'est Kadic qui nous a emmenés sur ce chemin-là. Mais en fait, l'écriture du scénario sur Californium a été une étape extrêmement longue. Déjà, il y a une raison, c'est que la place du scénario dans un jeu vidéo est très discutée. Il y a beaucoup de gens qui vous disent un jeu vidéo n'a rien à voir avec le scénario. Ça, c'est même antinomique pour certaines personnes.
C'est-à-dire qu'il y a des jeux vidéo qui se font sans scénario?
Beaucoup.
Beaucoup.
Qui reposent que sur le gameplay. Mais il y a beaucoup de gens qui vous disent un jeu vidéo, c'est un gameplay, le scénario, je ne veux même pas en entendre parler. C'est-à-dire, c'est même considéré comme antinomique avec le jeu vidéo.
Mais il y a quand même, bien souvent, dans les grands jeux AAA, des histoires, des cinématiques, des personnages, etc.
Absolument, mais là, je vous parle, le spectre est très très large.
D'accord.
Et vous avez donc effectivement des jeux narratifs, il y en a beaucoup, qui sont non, même plus considérés comme des jeux vidéo par certains, parce qu'on considère que le gameplay est très pauvre.
Exactement.
Et qu'en fait, on est plus dans une espèce de ressucé d'un film hollywoodien.
Exactement.
Que dans un jeu vidéo. Donc la question du gameplay, du rapport gameplay-scénario, est très délicate à manier.
Donc sur Californium, comment est-ce que vous avez pris
position? On a commencé avec Brice Roy, le game designer, à travailler sur des prototypes, c'est-à-dire savoir quelle mécanique de jeu, qu'est-ce que le joueur peut faire dans l'univers qu'on lui propose. Donc c'est extrêmement basique, hein, c'est vraiment des choses très peu modélisées. Et puis, une fois qu'ils ont trouvé le bon prototype, on commence à réfléchir à une direction artistique. Un premier scénariste, enfin avec Brice Roy, a posé le principe des mondes emboîtés. Mmh. Là-dessus, Olivier Bonhomme, le directeur artistique, arrive et commence à construire une imagerie. Donc on s'aiguille quand même doucement, de plus en plus, vers un jeu narratif, ce qui n'était pas du tout le cas au début. Au
D'accord.
début, on se cherchait vraiment, il y avait plein de possibilités. Hein. Le jeu narratif n'était pas du tout une évidence, et ce n'était pas du tout un parti pris. Sauf que Arte, petit à petit, avec l'expérience de Tap Rider, a donné, je dirais, les enjeux autour de Californium sont devenus plus importants. Donc l'idée qu'il fallait aussi pouvoir toucher le plus large public, c'est-à-dire des gens qui sont des casual gamers comme des gens qui sont des gamers, et si possible, des gens qui aiment, que ça puisse intéresser des gens qui aiment Dick et la science-fiction, et que les gens qui connaissent ni Dick ni la science-fiction s'intéressent quand même à la narration. Donc petit à petit, la narration est devenue un peu, comme on dit, l'éléphant dans la pièce. C'est-à-dire qu'on n'en parlait pas, mais tout le monde se disait un jour, il va bien falloir en parler.
D'accord.
Donc avance en parallèle le gameplay, avance la direction artistique. Stéphane Beauverger met en place le design des mondes, c'est-à-dire en gros les quatre mondes dans lesquels évolue le personnage principal, et une typologie de personnages. Mais il n'y avait aucune dramaturgie, il n'y avait aucune dynamique, je dirais, puisque justement le gameplay était encore l'objet principal du jeu. Et c'est au moment où tout d'un coup tout était en place, le gameplay et la direction artistique d'Olivier, qu'il a fallu se poser la question de la narration. Et donc, c'est là que je suis intervenu. J'ai écrit un synopsis qui a développé à la fois l'arche des D'accord. quatre mondes, l'arche des personnages dans ces quatre mondes, et pourquoi Elvin Green, et donc le joueur, veut d'un monde à l'autre, enfin, veut échapper de chacun des mondes. Il fallait pouvoir construire une espèce de cohérence narrative à tout ça, intégrer des clins d'œil et des allusions à Kadic, à la vie de Kadic et à son...
Oui, pour que ce soit aussi un jeu qui plaise particulièrement aux adeptes
de Kadic. Et puis donner, par exemple, sur le monde 2, qui est une dystopie où on est toujours à Berkeley, cette fois-ci dans une espèce de dictature, de démocratie totalitaire, dont on peut imaginer que, par exemple, McCarthy serait au pouvoir, donc c'est... J'ai réduit ça, j'ai poussé justement ce contexte dictatorial et j'ai transformé... C'était une Amérique... une Amérique dictatoriale. Là, j'ai ramené ça à un État qui est la Californie devenue indépendante, parce que j'ai voulu aussi donner un sens peut-être aussi plus politique à l'ensemble. Et donc, l'idée de faire de la Californie une nation indépendante est plus dans l'air du temps, où tout, on est en train de refermer les frontières, de rediviser les pays en petits États repliés sur eux-mêmes. Et je trouvais plus intéressant de faire une Californie.
Donc un jeu un petit peu politique, mais politique au sens kadikien, c'est-à-dire de projection, pas dans la politique directe actuelle.
Non, mais que ça résonne. Et sur le monde 3 qui se passe sur Mars, pareil, il y a des résonances autour de la...
Et du coup, si on essaye de décrire qu'est-ce qui se passe quand on parcourt Californium, donc on est dans un jeu d'exploration, c'est-à-dire qu'on est dans des univers qui peuvent être soit des appartements, soit des univers ouverts dans des villes. on se déplace et on va chercher des énigmes, chercher des éléments qui vont nous permettre de débloquer des mondes et donc de rentrer comme ça successivement dans des mondes, de rencontrer des personnages, d'avoir des dialogues avec eux. Donc une expérience assez cinématographique quelque part, hein, d'une certaine manière.
Tout à fait. Et la difficulté lorsqu'on écrit pour un jeu vidéo, c'est que vous êtes... comme on n'est par définition pas linéaire, c'est que vous ne savez pas dans quel ordre votre joueur va rencontrer les personnages, donc il faut que la narration fonctionne quel que soit l'ordre, la progression du joueur. Et la deuxième chose aussi, c'est que c'est un jeu à la première personne, vous ne pouvez pas vous exprimer, vous. Et vous ne vous voyez jamais en tant qu'Elvin Green. Ce qui veut dire que tout ce que vous savez du personnage que vous incarnez, entre guillemets, provient de l'environnement et des personnages que vous allez croiser. Donc, donc c'est à la fois de l'information, mais cette information doit passer de façon scénaristique. C'est-à-dire que ce n'est pas juste, mais mon Dieu, comme tu as l'air fatigué aujourd'hui. Ouais, ouais. Il faut que ça rentre quand même dans un récit. Et donc, il faut allier toutes ces contraintes.
Et avec la difficulté d'adapter des univers qui reposent justement sur celui de Philip K. Dick, où c'est beaucoup des choses qui sont dans l'imaginaire, qui sont dans la conscience, avec des allers-retours qui ne sont pas forcément évidents à retranscrire visuellement.
Exactement.
Donc du coup, on recommande à nos auditeurs donc d'aller sur la plateforme californium.arte.tv où ils pourront consulter les premiers épisodes gratuitement, et ensuite ils peuvent aller sur Steam.
Ils peuvent dès maintenant aller sur Steam, acheter le jeu. Là, on est en train de mettre au point une version du jeu où on peut sauvegarder la progression, voilà, qui était depuis le 16 février, qui est en...
Le temps de jeu complet estimé pour le terminer,
c'est entre 3 et 5 heures à peu près.
D'accord.
Dépendant de l'extérité du joueur.
Donc un film très long quand même.
C'est une série télé en fait.
On va maintenant passer à la dernière pause musicale de notre émission
c'est joli
puisqu'on va écouter un morceau de Damon Albarn qui s'intitule Everyday Robot, donc une chanson qui nous décrit justement, nous occidentaux, comme de petits robots prostrés sur leur téléphone, un thème ô combien cher à Philip K. Dick puisque c'est les interactions entre l'homme, la machine et qu'est-ce qui fait qu'on est encore des humains, qui nous servira parfaitement de transition pour aborder l'expérience en réalité virtuelle iPhilippe, dont nous parlerons tout de suite après avec Pierre Zandrovitch.
They didn't know where they was going, but they knew where they was, wasn't it? Everyday robots getting old.
stay.